Or, caret, ça veut dire le retranchement. Je ferai très rapidement l'analyse de la motivation de Rabbi Eliezer qui veut se servir de ce verset où un certain nombre de catégories de peuples sont donc frappées de la peine de retranchement pour déceler dans l'exégèse d'implication et que, en parlant de ce thème, de ce problème, de certaines causes qui peuvent être punies de la peine de retranchement, la Torah emploie un langage qui véhicule évidemment la notion de triadamédée. C'est-à-dire qu'il y a un olam hazé et qu'il y a un olam haba. C'est le fait que le verbe de carré, retrancher, elle sera retranchée, sous-entendu à Nefesh Haïk, pas sous-entendu, c'est dans le verset, cette personne retranchée sera retranchée. La répétition du terme implique l'exégèse suivante. Retranche, le premier retranché, c'est pour ce monde-ci. Le deuxième retranché, c'est pour le monde à venir. C'est-à-dire, si la Torah, dans son parler, dans son langage, elle parle d'une conception d'un monde qui se refermerait sur ce monde-ci, eh bien, elle n'emploierait pas ces expressions-là. C'est-à-dire, sa manière de parler est homogène et n'est compatible qu'à une vision qu'il y a en l'amazé, en l'amaba. La preuve, en particulier, ce verset où il y a karet, tikaret. Karet pour l'amazé, tikaret, c'est donc pour l'amaba. Je vais aller doucement, parce que là, nous avons vraiment un problème où la thématique elle-même s'entremêle avec un problème de langue pure et simple. Et au fond, vous le sentez déjà souvent, je pense, que l'essentiel de la chorma de la Torah chez Baalpé est dans le Lachon HaKodesh. C'est-à-dire, si nous savons parler le Lachon HaKodesh, alors en parlant, nous disons la vérité, à la limite. C'est plus que la vérité, c'est la vérité explicitée, c'est-à-dire la chorma. Vous savez d'ailleurs que c'est par définition la définition de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la science de l'hébreu. Enfin, de l'hébreu. Du Lachon HaKodesh. C'est-à-dire, comment dire ça? Vous entendez en hébreu? De ce que les linguistes appellent la linguistique. Dans une visée idéale. La différence. Je me souviens quand j'étais étudiant, et notre professeur de littérature m'avait vraiment, comment dire, alerté. Non, c'est pas le mot alerté, mais vous comprenez. Et à ce problème, nous étudions les symbolistes, Mallarmé, Rimbaud. Et le professeur de littérature, qui était un hamaret parfait, mais d'oreille, d'un ami des rabbins, mais qui connaissait son métier de professeur de littérature, alors, m'avait fait comprendre, en tout cas, je ne sais pas ce que le reste de la classe avait compris, que ces symbolistes, mais en particulier Mallarmé et Rimbaud, cherchaient cette langue dont nous parlons lorsque nous parlons du Lachon HaKodesh. Ils cherchaient une langue signifiante, absolument, et simultanément dans le régime de la qualité, dans le régime de la quantité. Et je me souviens de cette phrase, ça m'est resté dans la mémoire, c'est bien Rimbaud qui s'est suicidé. C'est Verlaine.
Nerval.
Il s'est arrêté d'écrire très jeune quand il s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. C'est-à-dire une langue pour dire ce qu'il voulait dire, et c'était cela, la langue symbolique que Mallarmé avait indiqué un peu de quoi il s'agissait dans un poème qui s'intitulait Les Correspondances. C'est de lui,
non? Non, c'est de
Baudelaire.
Bon, à propos d'un poème de Baudelaire, j'avais
bien
pas...
les rapprocher tous.
Bon, vous me rappelez ma jeunesse. Donc, c'était à peu près ça. Attendez, je me rappelle, au vert, il rouge, monsieur Oukraine.
C'est ça.
Mais on cherche ça dans un poème de Mallarmé, ça s'appelle l'azur. Bon, enfin, pour faire une blague récapitulative, il n'était pas suffisamment bien armé pour ce problème.
Bon.
Alors, une lame qui exprime le...
Et voilà, je crois que, en tout cas, ce point est extrêmement important. Et voilà que l'atmosphère du problème dans ces drachotes, dont nous parlons ici, c'est que, premier point que nous avons vu tout au début, de façon explicite, inversé pour cela, la Torah n'a pas à dire qu'il y a triatomie. Mais ce que les rabbins de la tradition pharisienne veulent mettre en évidence, c'est que dans tout ce qu'elle dit, elle ne parle que de cela, de façon implicite. Comment ? Par quel biais ? Par quelle méthode ? Par quelle opération ? Tout simplement en employant le langage de la vérité dont elle se sert, c'est-à-dire le Lashon HaKodesh. Pour pouvoir dire, dans tel cas grave de faute, un effet, une personne sera retranchée, disons, de l'histoire de la vie, elle le dit dans un redoublement du terme. C'est parce que, dans sa mentalité implicite de ce problème, elle sait qu'elle parle de deux mondes. Si elle veut dire que dans tel cas de faute, il y a retranchement de ce monde-ci, mais la part du monde à venir est préservée, elle emploie qu'une fois le terme. Lorsqu'elle emploie les deux fois, ça veut dire qu'elle pense qu'il y a non seulement retranchement de ce monde-ci, mais aussi perte de la part pour le monde à venir. C'est clair ? Vous voulez dire d'une autre manière ? Que la mort biologique, en tel ou tel cas grave, la mort biologique, c'est la mort tout court. Mais c'est ce cas particulier de la chose très grave de carette, petite carette. Retranchée, elle sera retranchée. N'effet, j'ai pas envie
de dire.
Je vais vous donner un autre exemple pour que nous voyons que c'est pas simplement un problème de grammaire littéraire, c'est toujours dans la discussion des rabbins à propos du redoublement de termes, une connaissance qu'il y a derrière, une chorma qu'il y a derrière. Mais il y avait à ce niveau les deux écoles. Rabbi Akiva, qui lui emploie cette méthode, Rabbi Ishmael, qui est très réservé. Ça ne veut pas dire que Rabbi Ishmael soit sadducéen. Mais c'était le problème que vous trouvez dans le livre d'Echel. Tout à l'heure, nous prendrons peut-être un petit moment pour discuter ensemble du sujet éventuel du prochain séminaire. Peut-être qu'on parlera ce sujet. Je crois que c'est un peu difficile. Il faut vraiment le savoir. C'est-à-dire qu'on prendra un certain nombre d'exemples, de différences d'optiques entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Bon. Donc c'est assez cohérent dans notre sujet, puisque après la catégorie de Triatamiti Mina Torah, il y a Torah Mina Shamaim. Donc on pourrait prendre comme sujet Torah Mina Shamaim pour la suite de la Mishnah. Bien, et voilà le raisonnement que je vous propose pour justifier la discussion entre Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi et le Kiti, et les Samaritains, de ceci. Si vraiment un homme accepte la Torah comme loi, et prend au sérieux la loi, donc il doit prendre la faute au sérieux. Et par conséquent, il y a un lien étroit entre la définition de la sanction et l'expression dont se sert cette Torah pour désigner la sanction. C'est-à-dire, pourquoi la sanction de la faute, appelée ici karet, est grave pour un homme qui prend au sérieux la Torah comme loi, et avec tout ce que ça implique comme harmonie de signification de la destinée et donc du salut. Et pourquoi c'est grave la faute ? C'est pas parce que ça mène à la mort biologique comme sanction, parce que ça c'est le sort de tous les vivants. L'idée de sanction est grave, alors elle sanctionne au niveau du salut et non pas au niveau de la vie naturelle. Et par conséquent, lorsque la Torah dit cette faute est très grave, et voilà sa peine. Sa peine, ça ne peut pas être la mort physique de l'arrêt, d'autant plus qu'ici, il ne s'agit pas d'une mort accomplie par le tribunal, c'est une toute autre catégorie de sanctions. Le karet, ça veut dire qu'on mourra de mort naturelle. C'est assez voisin, c'est pas mita bide beddin, c'est pas la mort que le tribunal va décider et un exécuteur des hautes œuvres va l'accomplir. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas exécution. Est-ce que c'est clair ? Le mot ne me vient pas. La peine capitale, le mot de...
Oui.
C'est-à-dire, c'est pas que le tribunal a dit un tel condamné à mort. On ne veut pas savoir combien de temps il reste à vivre. Demain, c'est fini. C'est pas ça, carré. Carré, ça veut dire que il mourra de mort naturelle. Et c'est encore différent de Mida Bideshama. Il y a plusieurs niveaux, dans tous les cas avant l'âge de 70 ans, mais, et de 70, mais aussi il y a plusieurs niveaux. Et ça veut dire que ces jours seront abrégés, mais par le jeu de la loi naturelle. Voilà à quoi il s'expose, au carré. Et carré, ici, c'est différent de Midabit et Shamaïm, c'est aussi différent de Hariri. Tout ça, je le signale simplement dans une petite perspective d'évolution, pour que vous sachiez que l'éventail est très grand, mais si nous parlons de carré, veut dire qu'il sera retranché de son peuple. Il sera retranché de cette identité collective qui s'appelle Israël. Voilà la peine de carré. Bien. Alors, où est la gravité dans l'histoire de ce monde-ci? Pas du tout, puisque le deuxième enseignement, c'était que dans tous les cas, s'il fait de chouvant, on le récupère. S'il se repent, on le récupère. C'est un problème, par quelle procédure, etc., etc., mais vous avez compris que vous voulez. Alors, est-ce que Rabbi Eliezer veut faire comprendre à ses interlocuteurs? Si vous prenez au sérieux la loi, si vous prenez au sérieux donc la faute, alors il faut prendre au sérieux la sanction comme sanction. Une sanction qui soit vraiment une sanction, c'est pas l'abordement naturel. C'est donc que la Torah parle d'autre chose. Et voilà comment elle en parle, en parlant l'hébreu du Lachon HaKodesh, en disant dans ce cas, Karet, Tikaret. Et donc, d'où la dracha, Karet, Baolam Hazé, Tikaret, Baolam Hazé. C'est clair? Alors, quelle est l'objection qui nous vient à l'esprit? C'est que les rabbins, de façon indue, illégitime, se servent d'une forme grammaticale, c'est peut-être pas le mot, ou linguistique, comment on dit ici. C'est pas de la grammaire quand même, c'est stylistique. Syntaxique, très bien. Une forme de syntaxe, se sert illégitimement d'une forme de syntaxe, parce qu'après tout, il n'y en a qu'une redondance, je crois qu'on appelle ça comme ça. Le fait de répéter, comme on dit, vivre de sa belle vie ou mourir de sa belle vie. Et que c'est tout simplement un procédé littéraire. Et que les rabbins utilisent illégitimement un coupage de cheveux en 19 pour dire des choses qui n'ont pas de base dans le texte. Vous comprenez quel est le niveau de la compte. C'est clair? Il faut bien faire attention. Et vous avez remarqué d'ailleurs hier soir, pour ceux qui étaient entre vous hier soir, les questions que m'a posé en hébreu un jeune israélien, vous avez remarqué, il parlait hébreu. Il ne parlait pas la Lachon HaKodesh. Vous avez compris, c'est la raison pour laquelle il mettait un mot à la place d'un autre. Mais ça s'entend tout de suite. Tout de suite. Mia. Il devait être assez interloqué de voir que ça existe la Lachon HaKodesh.
Le pire, c'est qu'il habitait au 15e étage.
Avant.
Ah oui, ce qu'il a dit,
il était scié.
Ah, mais heureusement que ce n'est pas aussi le 15e arrondissement, alors parce que. Non, c'est pas vrai. Il faut pas me dire des choses comme ça. Bon. Non, je blague.
Il est
déjà très
Ma chambre à Gomara. Yakum Bamishpat. Yamod Bamishpat. Aval lo Yakum Bamishpat. Lo yelo chelek bitriat amin.
ואז מה קורה?
זה
יודעים משהו?
זה יסוד.
זה יסוד.
הכוונה של הגמרא זה להוציא מהגיהינם כל אחד ואחד, ולא יידח ממנו נידח. משתדלים. C'est-à-dire que, bon, non, je ne vous ai pas parlé de ce qui arrive à cette quantité d'âmes qui est disqualifiée au jugement. Il faut dire terrible, donc les... Mais il y a un grand principe de la Kabbalah. C'est que j'ai peut-être fait allusion, peut-être sur ce point en disant, puisque le monde dure tellement, c'est que la patience de Dieu est infinie. Nous savons qu'elle a des limites dans la loi des temps, mais que dans sa nature, c'est une patience infinie. Et le seul sens de la patience infinie, c'est qu'il veut sauver tout. C'est-à-dire une sorte de principe qu'on peut peut-être mettre en forme dans le vocabulaire philosophique. La loi de l'être, c'est que tout l'être est être. Et par conséquent, l'idée d'une néantisation de l'être est contradictoire avec l'idée d'un créateur. Parce que la création, c'est un geste d'amour. Mais un amour a priori, un pari a priori, pour tout le créer. Et donc, l'idée que quelque chose soit détruit répugne au créateur. La preuve, c'est cette espèce de mystère. Alors que dans toute l'histoire de l'humanité qui mène au déluge, c'est échec sur échec sur échec, disqualification, disqualification. On penserait que, qu'est-ce que Dieu va sauver? Le reste élu, comment dire, le reste... noir, mais noir seul, non, il met dans l'arche des représentants de tout ce qu'il y a eu avant. Il y a un mystère là. À quoi ça sert de tout annuler puis que ça va recommencer avec les animaux sortis de l'arche. Hein? 19 hôtels. Mais, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et on répond à ce sujet.
Oui,
on répond à ce sujet parce que Dieu veut sauver tout.
Comment? Dieu savait.
Dieu veut sauver.
Il veut sauver.
Puisque c'est son œuvre. Rappelez-vous l'histoire de Jonas. Hein? Et quand Dieu dit à Jonas, toi, tu n'as pas pitié d'un kikayon, comment on dit un kikayon? Cet arbre-là.
Un ricin.
Un ricin, oui. Qu'il lui avait donné en cadeau, je crois. Tu n'as pas pitié d'un... toi, tu as pitié d'un ricin parce qu'il donne de l'ombre et tu ne veux pas que j'ai pitié de Ninive. Et vous voyez à peu près le... Et d'ailleurs, lorsque nous étudions justement l'histoire d'Abraham, en particulier le Maharal en a beaucoup parlé, on voit qu'au niveau d'Abraham, la générosité a été encore beaucoup plus grande. Lorsque Abraham sort de la préhistoire, il n'y a pas de déluge, tout est préservé. Et on le paye. Parce qu'aujourd'hui, avec qui nous avons affaire, avec les traces qui ont fait souche des déchets du temps d'Abraham, Noir ne pouvait passer dans l'avenir que si Dieu l'aidait en effaçant tout, sauf le résumé de l'arche. Vous comprenez ce que je veux dire? Le handicap de l'histoire, c'est que nous prenons un monde qui a commencé avant nous et qui est encombré des débris des échecs précédents. Et la générosité d'Abraham a fait qu'il nous a transmis un monde plein de tous les débris des échecs de son temps, avec lesquels nous sommes encore en problème. Mais ça, c'est la générosité est terrible, parce qu'elle handicap l'avenir. Ça a l'air paradoxal, mais... Vous voyez, quand les Européens ont voulu conquérir l'Amérique, eh bien, ils ont massacré les Indiens. Mais, ben, nous, les Juifs, on ne peut pas faire ça. Aucun rapport avec l'histoire qu'on a pour nous. Alors, revenons à notre... question. Je vais vous donner un autre exemple. D'ailleurs, d'une discussion aussi entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sur ce problème de l'objection éventuelle qu'on dit habituellement en hébreu, imken en la davar sof. Ça veut dire, bon, si on va donner la possibilité à n'importe quel Tamil Chacham ou qui se pense être un Chacham, là, vous savez que catégorie des mètres, il y a les mètres et les centimètres. Enfin, ce sont les centimètres. Il y a aussi des décamètres, d'ailleurs. Eh bien, si on va donner la possibilité à n'importe qui de faire n'importe quelle analyse, n'importe quel dracha sur une forme verbale, alors n'importe quoi peut sortir de là. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de limite. C'est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael, en général, est très strict. Très souvent, dans la discussion avec Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Akiva, assez de triturer les textes. Et je dis les choses de façon carrée. Vous voyez cette espèce d'objection qu'on peut porter de façon péjorative sur ce qu'on appelle le pipoule. Parce qu'effectivement, avec l'analyse exégétique, on peut faire sortir n'importe quoi. Est-ce que c'est bien clair? Bon, donc, c'est donc qu'il y a des règles. Et donc, il y a des règles. C'est pourquoi il y a un certain nombre de procédés d'exégèse qu'on a le droit d'employer, que si on en a reçu le contenu par tradition. Et là, Imken, Kibel, Mirabo. Et tout de suite, je donne un petit exemple. Kalva Chomer, un raisonnement a fortiori, c'est comme ça qu'on dit en français, Kalva Chomer, on peut faire par soi-même. C'est-à-dire, si déjà la règle est ainsi pour le cas X, à plus forte raison qu'elle le sera pour le cas X puissance X. Ça, c'est un Kalva Chomer. C'est-à-dire, c'est un résultat de raisonnement qui peut rester sain, authentique, même s'il est confié uniquement à la raison formelle. Mais une Gezera Shava, raisonnement par analogie, on n'a jamais le droit de le faire si on n'a pas reçu l'enseignement de son père. Parce qu'il y a une signification. Et qu'une signification s'identifie autrement que formellement. Par l'intuition intérieure de ce dont il est parlé. Et, comprenez, pour utiliser un raisonnement par Gezera Shava, et là, Imken Kibel Merabo. Mais Kalva Chomer, Adam, Kalva Chomer Meaz. Et c'est pourquoi vous avez très souvent dans la discussion talmudique la phrase suivante. Im Kavala Nekabel. Im Sevara Yesh Lehashiv. tu me dis quelque chose. Si c'est Kabbalah, si c'est une tradition que j'ai reçue, je reçois. Mais si c'est un raisonnement, j'ai à répondre. Oui, je vous répète la robe. Im Kabbalah ne Kabel. Im Sevara, yesh le hachet. Vous voyez le. Bien. D'ailleurs, si vous voulez, d'une certaine manière, quand on traite donc, de l'exégèse traditionnelle, et d'ailleurs le mot exégèse veut dire le contraire de tradition. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que c'est clair. Faire l'exégèse d'un texte, ça veut dire et y voir ce qu'on y projette. C'est ça l'exégèse. Le commentaire traditionnel, c'est faire dire au texte ce qu'il veut dire dans la langue dans laquelle il a été donné, que seule la tradition identifie. Vous comprenez bien, et regardez, très schématiquement, le décalage entre l'ivrite et la chambre à Kodesh, peut nous servir d'exemple massif à ce sujet. C'est la même langue, c'est la même, mais l'une est dans la catégorie de l'exégèse, ça c'est l'ivrite, l'ivrite et l'ivrite, on peut faire n'importe quelle exégèse. D'ailleurs, j'avais compris dans ce qu'avait cité l'étudiant hier soir, qu'il citait, bon, mais lui n'avait pas lu dans Kasuto, mais son maître avait lu toujours dans Kasuto, une explication que donne Kasuto. Vous savez qui c'est Kasuto? Donc, alors c'est un très beau livre à mettre dans une bibliothèque pour le regarder de loin. On ne peut pas substituer l'exégèse, qui est la méthode d'une culture coupée de sa tradition et qui essaye de déchiffrer ses propres textes, qui sont restés comme trace, et d'autre part, la Kabbalah, c'est-à-dire le commentaire traditionnel. Bien, alors l'exemple que je vais vous donner, que je vais vous expliquer rapidement, se trouve dans la Gemara de Brachot, au chapitre 5, à propos d'un verset de la prière de Hanna. Alors, je vais vous expliquer. Donc, Hanna est la mère de Samuel. Et donc, Anne en français, Shmuel en hébreu, pour Samuel. Alors, Elkanah, qui était le mari de Hanna, avait deux femmes, Pnina et Hanna. Pnina avait des enfants et Hanna n'avait pas d'enfants. Le premier chapitre du livre de Shmuel nous décrit la tristesse, plus que la tristesse, la misère morale de Hanna qui n'a pas d'enfants. La Gemara étudie cela à propos d'un problème important qui est celui de. Le droit à la prière. Quelle est la motivation qui me donne le droit de prier? Voilà quel est le problème. Lorsque je prie, c'est-à-dire je me mets devant Dieu qui dirige le monde et je lui demande de changer sa manière de diriger le monde. C'est-à-dire je fais un diagnostic que le monde ne m'est pas satisfaisant et je demande un changement de la volonté de Dieu. Vous comprenez la définition de ce que c'est que la définition? Chutzpah monumentale. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il faut un humour considérable pour se rendre compte que dans cette conduite de la piété, il y a une espèce de chutzpah, comment dire ça en français, énorme. C'est-à-dire un homme qui se lève les yeux au ciel et qui dit « Mon Dieu, tu ne sais pas gérer le monde, j'ai besoin de cela que je n'ai pas. Ouais. » C'est maman, c'est énorme. Bon. Pourquoi les grandes sadikim n'osent pas prier? Enfin, ils prient. Ils récitent la prière, ils font la prière, mais ils n'osent pas demander. Parce qu'ils savent dans le fond d'eux-mêmes que Dieu sait ce qu'il fait. C'est le paradoxe. Et une espèce de terreur de déranger quelque chose. Parce que prier, ça veut dire demander un miracle dans tous les cas.
Ça reposerait, cette définition de la prière, sur le postulat que tout ce qui arrive dans nous. Et du fait de la volonté de Dieu.
Soit voulu, soit acquiescé. C'est-à-dire, il est bien évident que nous devons rester dans la cohérence biblique. Si le Créateur est aussi le manéhik, le mashkiyah, comment dire ça en français, les mots en français ont parfois des sens décalés, la providence, mais enfin, il est le maître de l'histoire. Elokeinu melech haolam. Hashem Elokeinu melech haolam. Alors, si nous restons dans sa cohérence, ça veut dire que rien ne se fait si on n'a pas donné la permission. Et la Gemara dit très clairement, personne ne peut bouger le petit doigt, l'herbe sortir de terre, si Dieu ne le fait pas. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Pourquoi il y a dans le Ramak, dans Tomer de Rora, un des livres de Rabbi Moshe Kondoviro, de Mère de Morderova, une définition terrible de la faute. Faire une faute, c'est obliger Dieu à la laisser faire. Et c'est pourquoi on dit les nosé avon. Vous comprenez toutes ces. Et le tombeur de Boaz s'en sert pour nous dire à quel point il faut être patient. Parce que si déjà Dieu supporte, alors toi tu peux supporter. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas supporter. Et ça, c'est le problème d'Abraham, de savoir quoi demander et contre quoi se révolter.
Il y a plus la part de l'initiative humaine dans ce.
Non, écoutez, c'est un problème. C'est un problème. Et c'est pas simple comme problème. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Peut-être je parle d'autre chose à la fois, mais.
Et là, on a l'impression que d'après vous, le réel est rationnel, toujours.
Ah, j'ai pas dit ça.
Non, on l'avait pas dit, mais ça en découle. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes.
Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est Hegel qui disait que le réel est rationnel. Et vous savez à quel point c'est faux. Le réel, c'est une histoire de fou. On va reprendre, si vous voulez, un peu les choses là, un peu dans la racine. On a finalement pas quitté le sujet, puisqu'on ne l'a pas abordé. Au temps d'Abraham, il y avait un autre personnage qui s'appelait Nimrod. Nimrod est défini par la Bible comme étant le révolté par excellence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Nimrod, c'est la racine révolté. Le révolté, c'est Nimrod. Et Abraham, c'est le révolté par excellence. Voilà, lorsqu'on entre dans l'histoire d'Abraham, on voit sa véhémence contre le mal qu'il y a dans le monde. Voilà la grande différence. Abraham et Nimrod font le même diagnostic. Le monde est cassé, le monde est détraqué. C'est une histoire de fou. Je crois que bon, nous avons l'âge d'être un peu lucide, et comment dire, voir les choses en face. La véritable piété procède d'un sentiment de révolte et non pas de soumission. Quand nous disons à Dieu que ta volonté se fasse, eh bien, ça veut dire, et pourquoi elle ne se fait pas? Non, mais à quel, qu'est-ce qui empêche? La véritable formule de la prière, c'est pas que ce que je veux, moi, se fasse, c'est que ce que Dieu veut pour moi se fasse. Là, je suis sûr que c'est plus intéressant, parce que moi, je ne sais pas, finalement, ce qui vaut mieux vraiment pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, bien dans le sens pas long, c'est plus important, c'est plus assuré. Enfin, quand nous disons, Ehi Ratzon Milefanecha, et il y a une espèce d'harmonie, et pourquoi ça ne se fait pas? Vous comprenez toute l'ampleur du problème. Or, Nimrod, c'est l'homme révolté. Gibor Tsaïd Ifniach. Il est révolté, mais il porte sa révolte contre Dieu. Tandis qu'Abraham est révolté des mêmes choses, mais il porte sa révolte contre le mal. C'est-à-dire, Abraham se fait serviteur de Dieu pour que la volonté de Dieu triomphe et que le monde s'arrange, alors que Nimrod se fait l'ennemi de Dieu. Mais à partir de la même expérience. Peut-être que c'est assez contemporain avec un peu ce qu'a été l'expérience de Camus. Il a écrit L'homme révolté. Il m'a fait d'ailleurs l'honneur personnel d'une lettre un jour où il avait écrit cela. Et puis, parce que d'abord, vous savez qu'on est du même pays. Et puis alors, il y a de cela. C'est-à-dire, à partir du même diagnostic, l'attitude de Nimrod et l'attitude d'Abraham, mais à partir de la même expérience, est exactement opposée. Par conséquent, le diagnostic, du point de départ de la vocation d'Abraham, c'est précisément que le monde n'est pas rationnel, que le monde de la réalité, que la réalité n'est pas du tout cohérente. Pourquoi les choses sont ce qu'elles sont? Il n'y a qu'à lire le monde. Et le monde montre très bien que le monde est une histoire de fou. Mais ceci dit, ça veut dire qu'il y a une permission donnée. Et rien ne peut se faire sans que ce soit Dieu qui le fasse. Et d'où ce que dit le Ramak, que je vous ai cité, le tonnerre de Bora, d'où la gravité métaphysique de la faute pour une conscience religieuse. Parce que non seulement je dérange quelque chose, mais j'oblige Dieu à le faire. Mais pour une morale laïque, la faute c'est grave, pas plus. Mais pour une conscience religieuse, la faute c'est terrible. Parce que je sais très bien jusqu'où ça va. Ad kisa kavod. Et vous comprenez ce qui est investi comme ferveur dans cette. Je reviens donc au problème de la prière. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être une imprudence de le dire trop rapidement, c'est que le tzaddik sait profondément que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a la permission de prier. Mais ce que la Gemara cherche, c'est pourquoi je vous dis pourquoi le tzaddik, le vrai tzaddik, le tzaddik fondamental, a une certaine, plus que réticence, un mot plus fort que ça, panique de prier. Nous prions finalement en répétant la prière d'Israël par devoir. Nous disons la prière d'Israël comme une mitzvah pour que la prière d'Israël soit entendue. Mais notre demande individuelle, la plupart du temps, nous n'avons pas le courage vraiment de la demander face à face. Sauf dans des instants très rares de la vie, en particulier le jour de Kippour. Là, nous sommes dans une situation telle qu'on a le courage de prier. Tous les autres jours de la semaine, grosso modo, on fait la prière. C'est tefila mitzvah. Mais tefila, c'est le tzaddik seul. Or, le tzaddik n'ose pas. Précisément parce qu'il est tzaddik. Et alors, il y a un enseignement assez important à ce sujet, c'est que Dieu prive les tzaddikim de tout, choser kol, pour les obliger à prier. Il y a une image qui est donnée par certains textes, que le tzaddik en train de prier, c'est comme un homme qui ouvre un parapluie et qui demande la pluie, de telle sorte que la pluie tombe pour lui, mais arrose les autres. Oui, à peu près cette image. Et bon, je termine cette analyse. Donc, dans la Gemara que nous allons voir, la préoccupation, c'est d'établir les motivations de la demande dans la prière. C'est-à-dire, au fond, notre problème, qu'est-ce qui peut donner le droit de prier? Il y a cinq principes qui sont donnés par cette Gemara, qui est le cinquième chapitre de Barot, mais je vais citer celui qui concerne notre texte maintenant, que nous allons prendre comme comparaison de la discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Le premier principe, c'est s'il y a manque. S'il y a manque de ce qu'il serait naturel dont je dispose, que je dispose. S'il y a manque de ce qui serait naturel dans une création normale. S'il y a manque qui est authentiquement manque. S'il y a un manque artificiel, non. Mais si c'est un manque vraiment. Alors si je diagnostique un manque vraiment, j'ai le droit de demander ce qui viendra combler ce manque. C'est-à-dire qu'il y a d'autres principes de motivation de la prière, mais premièrement celui-là. Il y a un exemple privilégié que la Gemara va nous donner. Qu'est-ce que c'est que cette situation de manque authentique qui donne le droit de prier, la motivation surgissant du manque lui-même? J'essaie de paraphraser. Je m'adresse au Créateur et je dis, je sais que tu as tout mis dans ton monde pour que ça marche. Mais voilà, je sais qu'il me manque quelque chose qui ne devrait pas manquer. Donne-le-moi. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, manque de quelque chose d'anormal que ça manque. Pas d'un manque artificiel. Là, pour dire ça un peu légèrement, comme fondamental. Mais nous allons voir quel exemple la Gemara a pris. En nous disant que c'est ça le vrai manque. Les autres, c'est en plus semblant. Vous avez deviné d'ailleurs qu'il s'agit de Hana, de quoi il s'agit. Mais, comme il arrive souvent de dire lorsqu'on traite de ces problèmes, quand quelqu'un a un coffre en banque, et qui servait à Dieu pour dire pieusement, mon Dieu, donnez-nous notre pain quotidien, c'est Sroc. Il a un compte en banque. Il est devant son pain quotidien. Bon, je ne voudrais pas inventer des histoires juives, le sujet est tragique, mais enfin la vraie prière pour celui-là, c'est demander de la confiture de son bon pain quotidien. C'est-à-dire, non, ça a l'air d'être bizarre, mais c'est la première chose. Finalement, on aurait le droit que de demander le superflu, et pas l'essentiel. Et sinon, c'est un peu blasphématoire. Oui, je trouve à l'opposé. Alors voilà ce que dit la Gemara. Quel exemple? Quelle est l'attitude de la prière de demande dans le cas du manque? Nous avons un exemple privilégié. C'est Hana. Et qu'est-ce que c'est Hana? La mère sans enfant. C'est intentionnellement que je vous dis comme ça. La femme sans enfant, là c'est un autre problème. C'est la femme sans mari. Mais la mère sans enfant. Et la Gemara d'ailleurs restitue le contenu de sa prière, qui est seulement indiqué qu'elle a prié dans le texte que nous allons voir, par des prières d'un très grand prophétique. Enfin, vous les lirez vous-même dans le texte, si vous voulez. Le rabbin se demande, et qu'est-ce que Hana a dit dans cette prière qu'elle fait pour demander un enfant? Alors il y a des descriptions du discours de la prière de Hana qui sont extrêmement pathétiques. Mais sur ce point, que je formule un peu formellement, c'est-à-dire un monde normal est un monde où les mères ont des enfants. Tu m'as créé mère sans enfant, et tu m'as, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de te demander. Vous voyez, quelle est donc la définition? Et à ce propos, nous avons. Pardon?
Guarana, il y avait avant Guarana, Rachel.
C'est exact. Surtout Rachel qui dit Havelina Banim Veimla Metanochi. On a enseigné cela dans le fait que les premiers qui ont prié pour avoir un enfant, c'était Sarah et Rebecca et Isaac. Isaac et Rebecca. Mais ici, parce que, vous voulez, la Gemara cherche les modalités de la liturgie de la prière. Bien sûr, on va se baser sur les prières qu'ont faites les patriarches. Mais pour d'autres principes, par exemple, il y a une prière du matin. Alors on prendra comme modèle Abraham, qui a une prière de l'après-midi, le modèle de Yitzhak, une prière du soir, le modèle de Jacob. Mais ici, si vous voulez, la forme de ce qui donne le droit à la demande, et la motivation du Kovet Rosh, du sérieux de la demande dans la prière, on nous donne comme modèle Erhana. D'ailleurs, la Gemara va discuter en disant, si on a le droit de demander que lorsqu'on est dans la situation de Hana, c'est un peu exagéré. Je veux dire, le critère est trop haut pour nous. Parce que, après tout, nous avons aussi d'autres manques de moindre envergure. Mais le principe est clair. Il faut que le diagnostic du manque soit authentique. Qu'il manque quelque chose qui manque vraiment dans un monde normal. Et donc, là, je me souviens de l'analyse d'Épicure sur les besoins naturels nécessaires, ni naturels, ni nécessaires, non nécessaires, non naturels. Vous vous rappelez de ça? Alors, je ne vais pas parler d'une mathématique des désirs, d'une mathématique des... comme il y a une mathématique des utilitarismes, des jouissances, mais d'arriver quand même à savoir qu'est-ce qu'on a le droit de demander. C'est pourquoi il y a une chokhma de la tefila. Qu'est-ce que j'ai le droit de demander? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de demander? Vous savez le problème. Oui, pardon.
De
Rebecca.
Oui.
Peu plus fort, j'entends pas. Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est une tefila même plus que Rachel ou Rebecca? La question qu'a posée.
Oui.
On pourrait dire que finalement, Hana, c'est un peu ça, tandis que les femmes des patriarches, c'est au niveau historique.
Oui.
C'est le peuple.
Oui, j'aurais eu tendance à répondre.
En termes de tefila, ça s'applique pour les femmes des patriarches. C'est vraiment une
tefila. Oui. Tu le verras, vous le verrez dans les commentaires sur le verset concernant la prière de Isaac et de Rebecca. Le terme n'est pas employé là-bas de l'Itpalel, mais la Rater, la Yarta, justement. Mais là, vous verrez les commentaires qui disent c'est la chante tefila. Mais c'était une tefila encore beaucoup plus comme une pelle retourne la terre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bouleverser l'ordre du monde pour que Rebecca puisse avoir un enfant. J'aurais eu tendance à répondre comme cela, mais j'ai répondu sur un autre point, c'est-à-dire que le principe de la possibilité de la prière est appris des patriarches, alors que les modalités de la prière sont apprises de Hana. On peut donc répondre comme ça, que Hana est plus à notre, c'est un cas plus à notre portée. C'est juste. Mais ceci dit, bien que Hana soit un cas à notre portée, le critère est trop fort, dit la Gemara, parce que s'il faut arriver dans la situation de Hana, la mère sans enfant, pour avoir le droit de demander ce qui va combler le manque, alors il faut vraiment être dénué de tout. Mais en fait, c'est la prière du Tzadik. Bon, voilà en tout cas sur quel verset nous allons prendre l'exemple dans la Gemara. Là, d'abord le verset. C'est dans le premier chapitre de Shmuel Aleph. Voilà. Le verset 11. Va-t-il donner des vatomar? Et elle dit, Hashem Tzvaot, im rao tire baroni amatecha. Si, voir, tu vois, vous voyez l'expression en langue, j'en mettrai au tableau d'ailleurs. Imrao tiré, et ça veut dire donc au niveau littéraire immédiat, si tu daignes voir, Imrao tiré. Et ce sens est indéniable, l'isolant de tout. Imrao tiré, baroni amatecha, uskhartani, et que tu te souviennes de moi, velotishkar et amatecha, que tu n'oublies pas ta servante, venatatal amatecha zera anashim, alors tu donneras, et que tu donnes à ta servante une semence d'homme, untativ lachem. Je le consacrerai à toi. Je vais isoler Imrao tiré. Si voir, tu vois. Alors, voilà ce, ce que dit la Gemara. Amar Abelazar en sait. Amra Hana l'ifna kadosh moro. Non, vous n'avez pas le texte. Voilà ce que Hana a dit devant Dieu dans cette prière. Ribono shel olam, maître du monde. Imrao, si voir, mutav, c'est bien. C'est-à-dire, si tu vois dans le Imrao, une fois employé, si tu vois, eh bien c'est bien parce que tu verras, tu jugeras et tu me donneras ce que je te demande. Et sinon, tu verras. Tu verras quoi? Il y a toute une stratégie qui va être décrite. Mais pour notre problème, du point de vue de la méthode, tout de suite un premier point. Que veut dire Imrao tiré? Au niveau syntaxique simple, c'est une redondance qui consiste à dire si tu daignes voir. On trouve comme ça, si tu veux, le style de Madame de Sévigné. Bon, on ne voit pas Madame de Sévigné rentrer dans le temple faire la prière de Hana, mais c'est ce que je vais ajouter. On ne voit pas non plus Hana parler comme Madame de Sévigné. C'est donc qu'il y a quelque chose derrière, dit la Gemara. Alors, on va changer complètement de registre. Voilà ce que ça veut dire. Imrao mutav, veimlav tiré. Alors, je suis le raisonnement, ensuite on verra sur le contenu du thème. Elech, je j'irai, veistater bifnel kana barli. J'irai rendre jaloux mon mari. Et puisque je l'aurai rendu jaloux, mashkolim me sota, on me fera boire les eaux de la femme sotte, de la femme présumée adultère. Et vous connaissez donc ce rite, lorsque un mari soupçonne sa femme, alors il va chez le Kohen, il dit voilà, je ne peux plus vivre, elle me rend jaloux, et j'ai beau lui faire des remontrances, elle continue. Elle s'isole avec d'autres hommes, etc. Alors la femme dit, mais je suis innocente, il est jaloux, il n'est pas normal. Alors il y a là quelque chose qu'il faut résoudre. Et qu'est-ce que fait le Cohen? Alors il y a le détail du rite, je ne le rappellerai pas, ça me prendra trop de temps. Il fait boire un certain breuvage qu'on appelle Amaïm Amaharim, les eaux amères, il le fait boire à la femme. Et la Torah dit, si elle est innocente, pardon, si elle est coupable, elle en mourra. Si elle est innocente, elle enfantera. Vous devinez tout de suite la stratégie de Hana. Voilà ce que je vais faire. Je vais rendre mon mari jaloux. Alors on va me faire boire ce breuvage. Veillez à ta osée, toratra, plaster. Tu feras pas ta Torah mensongère. Je n'ai marre parce qu'il est écrit Veniketa, Venizle Azara. Si elle est innocente, elle enfantera. Comme je suis innocente, j'enfanterai. Et toute cette stratégie. Voilà. C'est joli d'ailleurs en plus, mais c'est très, très profond. Avant d'aller plus loin. Je dirais le thème qu'il y a là, nous le retrouvons dans tout ce thème de tous les prophètes accusant Israël d'adultère lorsqu'Israël est accusé d'idolâtrie. Cette situation. En réalité, la Gemara nous aide à élucider ce thème. En réalité, non. Israël n'est pas idolâtre. Mais Israël est comme Hana, cette femme stérile qui veut avoir un enfant et son mari ne lui donne pas.